Bonjour et bienvenue pour cette édition de La Voix est libre, l'émission politique de la rédaction de France 3 Île-de-France pour un débat sur la campagne électorale des législatives. Et avec nous sur ce plateau aujourd'hui, en direct, Patrick Bloch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là pour le Parti Socialiste et vous êtes candidat à Paris. En face de vous, Jacques Myard, pour l'UMP, vous êtes candidat dans les Yvelines.
C'est exact.
En face de vous, Marie-Georges Buffet, pour le Front de Gauche, et vous êtes en Seine-Saint-Denis. Et aussi en Seine-Saint-Denis, Nathalie Arthaud pour Lutte Ouvrière. Merci donc à Bonjour. Tous les quatre d'être avec nous sur ce plateau. Et donc je serai le garant de l'équilibre de temps de parole entre vous. Cette semaine a été beaucoup marquée par une actualité sociale. Les syndicats ont été reçus à Matignon pour préparer la grande conférence du mois de juillet. On a aussi évoqué les salaires des grands dirigeants, le futur décret sur la retraite. Et justement, cette retraite, elle a entraîné un certain nombre de mécontentements qui se sont exprimés de la part de certaines professions qui s'estiment oubliées dans les critères de pénibilité, à savoir par exemple les égoutiers qui ont manifesté cette semaine. On regarde.
C'est ce qu'on appelle un mauvais timing. Sous les jardins du ministère du Travail, une délégation d'égoutiers souhaiterait rencontrer le nouveau ministre de tutelle. Mais pas moyen d'être reçu, Michel Sapin n'est pas là. Il est déjà en plein dialogue social à Matignon. Leur journée d'action a commencé dès ce matin par une démonstration de force sous la tour Eiffel. 500 égoutiers venus de toute la France pour attirer l'attention sur le caractère dangereux et insalubre de leur métier, où l'espérance est réduite de 7 ans par rapport à la population ouvrière nationale, de 17 ans si l'on compare à l'ensemble de la population française.
On est en contact avec un volume de matière fécale, bien sûr plus important par le fait de l'augmentation de la population, mais vient s'y greffer tous les rejets de l'industrie, notamment l'industrie chimique, mais aussi les hôpitaux avec des rejets radioactifs.
Pour les syndicats, l'urgence est de rétablir une retraite à 50 ans contre 52 aujourd'hui et d'étendre ce régime d'insalubrité appliqué aux égoutiers qui descendent en souterrain à tous ceux qui travaillent en contact avec des eaux usées, comme par exemple dans les stations d'épuration. Au final, les égoutiers ont pu être entendus et comme un symbole, leur délégation a été reçue à la fois par les équipes du ministère du Travail, mais aussi celui de la Santé.
Alors nous allons prendre tous ces sujets sociaux les uns après les autres, mais d'abord les retraites. Et d'abord la première question à vous, Patrick Bloch, est-ce que le gouvernement n'a pas fait naître un certain nombre d'espérances qui risquent d'être déçues quand il a évoqué la retraite à 60 ans? Parce que finalement on s'aperçoit que ça ne va toucher que 100 à 150 000 personnes.
François Hollande avait été extrêmement clair durant la campagne présidentielle. Le retour à la possibilité de partir à la retraite à 60 ans visait principalement ceux qui avaient leurs annuités, qui avaient fait des travaux pénibles et surtout qui avaient commencé à travailler très tôt. Donc une mesure de justice sociale parce que ces situations n'avaient absolument pas été prises en compte malgré nos efforts lors du débat qui avait lieu à l'Assemblée nationale sur les retraites, puisqu'on avait eu un gouvernement totalement fermé à toute ouverture et qui avait fait passer en force son mauvais projet.
Jacques Myard, un commentaire.
Je trouve qu'il ne faut pas trop réécrire l'histoire, car la prise en compte de celles et ceux qui ont travaillé très tôt a déjà été prise en compte dans la loi Fillon de 2003-2004. Deuxièmement, il ne faut quand même pas oublier qu'en l'occurrence, il s'agit des 18 ans et que le coût pour le budget et notamment les régimes complémentaires n'est pas chiffré. On estime que ce sera sans doute sur un quinquennat 7,5 milliards. Donc pourquoi pas? Mais comment allons-nous les financer? Est-ce que c'est par les hausses de cotisations qui sont estimées par le Parti Socialiste à 7%, c'est-à-dire une perte de pouvoir d'achat substantielle pour un salaire médian, environ 250 euros. Donc je crois que tout le monde est pour partir si c'est pénible, mais il y a un moment, il faut regarder la réalité financière en face.
Marie-Georges Buffet.
D'abord, Monsieur Myard, il y a un grand changement, c'est que les syndicats sont écoutés et sont reçus.
Ils l'ont été aussi dans le passé, madame.
Alors que nous avons manifesté de très nombreuses fois, nous étions des millions, et que vous avez refusé tout dialogue social.
C'est
ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mais si vous l'avez même justifié en disant que puisque les syndicats n'étaient pas en accord, ce n'était pas la peine de négocier. Deuxième chose, la question du financement. Là, il y a un premier décret. Un premier décret qu'il faut améliorer avec les syndicats.
On a vu pour les vous aurez chacun la parole.
Mais il faudra bien sûr revenir sur les questions du financement. Il faudra demain un travail législatif sur les retraites, et la proposition que nous faisons au Front de Gauche, c'est de faire cotiser les revenus financiers au même taux que les salariés, et ça permettra de financer la retraite à 60 ans.
Le chiffrage va en fonction des critères qui seraient retenus de 1 milliard à 5-7 milliards.
1 milliard pour une année, oui. 7 milliards sur le quinquennat.
Oui. Mais justement, posons la question du financement, M. Myard. Allons chercher l'argent là où il est inutile, notamment dans les revenus financiers.
De la part de M. Marchais, ça n'a jamais fonctionné.
Nathalie Arthaud.
Écoutez, oui, moi, bien sûr que c'est le gouvernement de droite, Sarkozy, qui a fait passer en force ce recul, ce vol de 2 ans de retraite. Donc ça, c'est scandaleux. Mais moi, ce que j'observe, c'est que Hollande et son gouvernement ne veut pas revenir sur cette contre-réforme, voilà, ne veut pas l'annuler. Et que finalement, le retour
là,
à 60 ans...
On est dans l'urgence, c'est un décret qui vise au plus vite à réparer une injustice sociale fondamentale. Et vous savez très bien que la conférence sociale qui sera convoquée au mois de juillet posera le problème des retraites en général.
Mais écoutez, non seulement
Nathalie Arthaud va finir ça.
Mais également le montant des pensions qui est tout à fait déterminant. Les pensions de retraite doivent être réévaluées.
Et j'ai bien observé que Hollande, à aucun moment, n'a dit que, revenu au pouvoir, il annulerait et reviendrait sur cette réforme. Non, il a réserve effectivement à une minorité de travailleurs. Je pense que cela, bien sûr, le mérite. Et quand on voit effectivement les égoutiers avoir 7 années de vie de moins, eh bien, mais c'est le lot de beaucoup de travailleurs qui travaillent de nuit, qui font un travail pénible. Donc il faudrait revenir effectivement à 60 ans et à 37 annuités et demie de cotisation pour tous. Et je tiens à dire que cela n'a pas de prix. Cela n'a pas de prix parce que ça, c'est la vie de millions de travailleurs. Et je crois qu'après une vie de travail,
cette mère vous a envoyé une incidente en disant c'est illégal parce que vous allez le faire passer par décret. Certains demandent à ce que ça passe par la loi avec un examen devant l'Assemblée nationale.
François Hollande avait pris cet engagement très très clair. C'est presque une mesure qui a été validée par voie quasi référendaire du fait de l'élection de François Hollande comme président de la République. Et la voie du décret n'est en rien illégale.
Écoutez,
d'ailleurs, la preuve, cher Jacques Mien, c'est que vous avez soutenu un gouvernement.
Vous auriez crié à la forfaiture et nous allons demander au ministre de venir s'expliquer mardi devant le Parlement, car nous sommes encore députés jusqu'à la fin. C'est pas grotesque. Nous voulons des explications. Et c'est absolument scandaleux de passer par la voie du décret.
Jacques Mihard, à l'été 2011, et je ne vous ai pas entendu protester, Xavier Bertrand avait allongé la durée des cotisations par décret, alors qu'il avait dit le contraire, qu'il ne passerait jamais par le décret.
Ce qui est important, c'est de revenir sur le débat de fond sur les retraites. Parce que la retraite, c'est quand même le droit acquis par les cotisations, par le travail des salariés. Et l'argument qui a été avancé par la droite tout au long de ce débat sur les retraites, nous vivons plus longtemps, nous devons travailler plus longtemps.
C'est inexact ?
Si, vous avez avancé cet argument.
Mais est-ce que c'est inexact ? Sur
oui, c'est inexact, parce
non,
que
madame,
le temps de la retraite...
Les socialistes sont d'accord avec ça.
Non, ce n'est pas un argument, parce que la retraite n'est pas un temps inutile. La retraite est un temps utile pour les individus eux-mêmes, mais aussi pour la société. Regardez dans vos communes, s'il n'y avait pas les retraités dans le mouvement associatif, dans la démocratie participative, il n'y aurait pas de vie collective.
Marie-Georges Buffet, une précision, parce que vous avez parlé d'annuité, et il y a un débat, c'est peut-être un peu compliqué, mais il y a les annuités payées, ou les annuités cotisées, et les annuités validées.
Les syndicats demandent très clairement que les périodes de chômage... soit validité,
il y a le service militaire, il y a
les périodes de chômage, les périodes de maladie, je pense notamment aux longues maladies, soit validées. Je pense que c'est extrêmement fort.
Et là, je serais assez d'accord.
Mais bien sûr. Enfin, ça pénalise énormément les femmes.
Mais je ne dis pas le contraire.
Les femmes déjà sont touchées par l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Au moment de leur retraite, ça se ressent sur le montant de la pension.
Madame, ça.
Ben c'est un débat extrêmement important.
Mais on est d'accord,
il y a 27%
d'écart
de salaire entre les hommes et les femmes. Donc je suis pour la validation de ces périodes.
Oui.
Monsieur Mihard reconnaît que son gouvernement a donc donné des mauvais coups aux travailleurs. Eh bien écoutez, voilà, c'est déjà une bonne chose.
Ce que je reconnais, c'est que
parce que vous avez fait beaucoup reculer
la réforme
les retraites
obligatoires.
Vous avez fait reculer les retraites des femmes.
Vous niez la réalité. Vous niez la démographie. Vous niez la nécessité qu'on vit plus longtemps aujourd'hui. Vous êtes en train de bâtir une utopie sociale qui malheureusement ne correspond pas à la réalité.
Alors ce que vous oubliez de dire, c'est que le problème de la retraite, ce n'est pas un simple problème mathématique, c'est qu'en réalité la productivité elle a beaucoup augmenté ces 40 dernières années. Aujourd'hui, un travailleur en emploi le sait pertinemment, il fait le travail de 3, 4 salariés.
Nous ne sommes pas les seuls à avoir augmenté la productivité. L'ensemble des pays dans le monde le fait.
Où part tout cet argent? Eh bien nous disons que cet argent, il devrait aller justement dans le fait de verser des retraites plus élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même 1 million de retraités qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dans ce pays, et beaucoup de femmes. Et ça, c'est le résultat de votre politique, justement.
C'est le résultat
de
la crise.
Moi, je pense que le débat que nous avons ne peut se limiter à l'âge légal de départ à la retraite ou à la durée des années de cotisation. Il y a derrière tout cela un enjeu de société qui est le problème des conditions de vie des retraités en France aujourd'hui. leur pouvoir d'achat a baissé. Je suis régulièrement interpellé sur les conséquences néfastes d'une mesure ancienne, la mesure Balladur, qui fait que pour calculer les pensions de retraite, on ne prenait pas les 10 meilleures années, mais les 25 dernières années. Et compte tenu de ce qu'est le coût de la vie, et notamment en zone urbaine, le montant des loyers, les retraités visent difficilement. Et j'espère que la conférence permettra d'aborder également le montant
Monsieur
des pensions
Bloch,
et le montant des pensions de réversion.
Je suis assez étonné de cet argument, parce que maintenant vous devez gérer la réalité. Est-ce que vous reviendrez sur la décision de M. Balladur ? Non. Est-ce que vous reviendrez, et d'avoir vos petits camarades de gauche vous le disent, est-ce que vous reviendrez sur la généralisation de 60 ans ? Non.
Qui est
donc,
domaine qui
nous
est
sommes effectivement dans un domaine où le principe de réalité prime sur toute la démagogie sociale.
Mais c'est quoi ce principe de réalité ?
Le principe
c'est
de réalité,
réalité,
madame, c'est que nous rentrons en règle générale vers 25 ans dans l'activité et que nous vivons jusqu'à 80-90 ans et que de toute façon, dans un système par répartition,
c'est
les seuls qui travaillent qui financent le reste.
Vous mettez sur la réalité, oui, sur votre réalité, parce que quel est le problème ? C'est par exemple que des jeunes connaissent aujourd'hui un chômage de masse, qu'ils connaissent une très grande précarité avant d'avoir un emploi stable et bien rémunéré. Laissez-moi finir.
Oui.
Laissez-moi finir. C'est ça le résultat de vos politiques. C'est le fait que les femmes, en effet, gagnent moins que les hommes. C'est le fait qu'aujourd'hui, il y a un chômage de masse dans ce pays. C'est tout cela qui fait que le régime de retraite est en difficulté.
S'il y avait moins de chômeurs, le régime de la sécurité sociale serait équilibré. Je vous
l'accorde. C'est le fait que l'argent produit par le travail aille plus.
Arrêtez
de couper tout le monde. C'est le fait que les richesses produites par le travail aillent plus vers les dividendes des actionnaires que vers les salaires.
Madame,
à la recherche, l'innovation,
Madame
c'est tout cela votre politique.
Faites l'effort de raisonnement et cessez de parler par slogan.
Mais je ne parle
vous
pas de slogan, je raisonne,
toujours
monsieur.
En train de parler par slogan.
Mais c'est quoi
la
votre réalité,
réalité
c'est
elle
pas
est économique.
S'il vous plaît, pas tous les deux en même temps.
S'il y avait un million de chômeurs en moins, on se porterait tous mieux. Et on équilibrait
oui,
notamment les comptes de la sécurité sociale.
Mais
il
faut interdire les licenciements boursiers.
La crise n'existe pas. Il n'y a pas de crise mondiale. Tous les pays d'Europe ont augmenté l'âge de la durée de leur retraite. L'Allemagne est à 67 ans, l'Angleterre à 67 ans, l'Espagne socialiste également. Et vous venez nous dire aujourd'hui que vous allez revenir sur cela.
Le montant des pensions, le montant des pensions, c'est sur ce sujet que je veux vous interpeller. Écoutez, vous ne pouvez pas admettre qu'un million de retraités qui vivent sous le seuil de la pauvreté ne nous interpelle pas. Et vous ne pouvez pas, à partir de là, avoir une réponse purement financière sur les problèmes des comptes de la branche assurance vieillesse de la sécurité sociale.
Mais la réalité budgétaire.
Mais
agir,
c'est bien
alors,
du nouveau gouvernement.
Voilà, Nathalie, vous êtes un peu en retard
de faire de la démagogie sociale.
Jacques Nord, vous êtes un peu en avance. Voilà, je vais rééquilibrer.
C'est pas de la démagogie, c'est de la négociation sociale.
Nathalie Arthaud.
Bah, écoutez, la réalité, c'est que dans la société, on crée plus de richesses. Voilà, il y a du progrès. On voit que les millionnaires sont maintenant des milliardaires. Voilà, c'est cette réalité-là aussi. Et on nous explique très gentiment que la réalité économique, c'est qu'on ne peut pas assurer les retraites qu'on assurait il y a 20 ans, qu'on ne peut pas assurer les salaires qu'on assurait il y a 20 ans, qu'on ne peut pas soigner les gens comme on les soignait il y a 20 ans. Voilà, tout ça. Alors, pourquoi marche-t-on pourquoi recule-t-on ? Eh ben pour qu'une minorité nage dans des millions, si ce n'est pas des milliards. Voilà la réalité que vous acceptez, vous, et que nous combattons.
Je n'ai pas l'ambition de vous mettre d'accord. Donc, si vous voulez, on va passer à un autre sujet qui a été évoqué cette semaine. C'est la réduction des salaires pour les hauts dirigeants dans les entreprises publiques ou dans les entreprises où l'État a une forte participation, au moins 50%. C'était une question de décence, c'était une question de morale, c'était un signe qu'il fallait envoyer à l'électorat ?
C'est un peu tout ça. Décence, morale, et effectivement, le fait que l'écart soit de 1 à 20 est un objectif que le gouvernement se fixe pour les entreprises publiques et les entreprises, comme vous l'avez rappelé, où il a un pouvoir d'action de par sa participation en tant qu'actionnaire. Et j'espère que ça va donner une impulsion et que dans le privé, il va y avoir de la part des actionnaires, et notamment des petits actionnaires, une mobilisation pour que les salaires des dirigeants du privé suivent.
Est-ce que je peux vous poser une question provocante ? Est-ce que le vrai enjeu, c'est pas combien ils gagnent, c'est est-ce qu'ils font gagner l'entreprise ? C'est-à-dire que est-ce que ce qui choque les gens, c'est pas que ces gens-là gagnent énormément d'argent alors que leur entreprise est en difficulté et qu'ils décident des plans sociaux ?
C'est pire encore, mais c'est pas parce que l'entreprise fonctionne bien que l'écart entre le dirigeant et le salaire le plus bas de l'entreprise doit être avec un écart extraordinaire. Donc, qui est que les dirigeants des entreprises soient payés en fonction de leur juste travail. Mais là, si vous voulez, il y a un déséquilibre tel qui fait que nos concitoyens sont très justement choqués. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est de la morale et de la décence.
Nathalie Arthaud, je vous vois faire une mine. C'est pas une bonne mesure ?
Écoutez, moi, j'ai rien contre. Mais franchement, moi, je pense que le problème urgent, c'est d'augmenter les salaires. C'est d'augmenter le SMIC, et de façon considérable.
C'est-à-dire qu'à la phase de baisser le salaire des dirigeants, il faut augmenter le salaire des...
Mais vous comprenez, c'est pas ça qui va aider des millions de travailleurs à remplir leur frigo, ou à payer leur loyer, à payer toutes leurs factures. C'est ces millions de familles qui sont dans, aujourd'hui, qui plongent dans l'endettement, dans le surendettement. Ah, c'est pas ça qui va les sortir de ces difficultés quotidiennes. Hein. Donc, nous disons que le problème, il faut d'abord le prendre par ce bout-là. Oui, il faut augmenter les salaires, il faut augmenter les pensions de retraite, et il faut les augmenter. C'est pas un coup de pouce qui va aider aujourd'hui
là,
les SMICards à s'en sortir.
Il y a une confusion entre deux sujets que vous parliez de l'augmentation des salaires, des bas salaires, et notamment du coup de pouce que François Hollande dit vouloir donner au SMIC, est très justifié. Là, on parle des salaires des dirigeants des grandes entreprises publiques. Dans les PME, le patron d'une PME gagne pas plus.
Il n'y a pas de confusion, simplement je souligne que c'est bien ça l'essentiel, et là-dessus, le gouvernement Hollande ne s'engage pas à la hauteur de ce qu'il
faudrait. On va évoquer le SMIC dans un instant. Marie-Georges Buffet, sur mettre un peu de raison dans les salaires des grands dirigeants.
Il ne faut pas opposer les deux mesures. Moi, je suis en effet pour qu'il y ait une réelle augmentation des salaires, et notamment des bas salaires, et avec le SMIC, on va y revenir. Mais je pense que pour des raisons pas simplement morales, oui, une raison morale, il fallait faire baisser les salaires des grands patrons. Mais j'ajouterais qu'il y a quand même la question des dividendes des actionnaires, qui est encore plus importante que les salaires des grands patrons, parce que là, ils s'en mettent plein les poches. Et puis, il y a aussi une question d'efficacité économique. Parce que tout cet argent qui va vers les mêmes individus, actionnaires, grands patrons, pensez-vous qu'il est utile pour notre économie lorsqu'il va dans la spéculation, la même spéculation qui nous a plongés dans la crise? Alors que l'argent qui va dans l'augmentation des salaires, il est utile. Il est utile, bien sûr, humainement pour les hommes et les femmes, pour leurs familles, mais il est utile parce qu'il va vers la consommation. Bon. Donc je pense que hausser les salaires et baisser les dividendes des actionnaires et tous les cadeaux faits aux grands patrons, c'est une bonne chose.
Jacques Maire, je vais vous demander votre réaction, mais alors juste une chose aussi, c'est que ce qui a surpris, c'est que le gouvernement de gauche le fasse en cours de mandat, c'est-à-dire n'attende pas la fin du mandat pour renouveler le contrat.
Ensuite, on verra si les gens vont plaider, etc., les tribunaux trancheront. Oui. Alors je vais peut-être vous surprendre, beaucoup de gens à droite sont choqués par les hyper salaires d'un certain nombre de personnes, et notamment... retraites parachutes. C'est parfaitement inacceptable. Quand un problème quantitatif de cette nature se pose, ça pose un problème qualitatif. Et nous avons déjà commencé à taxer effectivement les bonus des traders, à augmenter, à demander à ces hyper salaires une participation supplémentaire au budget de l'État par une surtaxe de 3%. Et donc, je ne suis pas choqué. Maintenant, faut-il 1 à 20, etc. Patrick Bloch, à juste titre, disait ses fonctions aussi, je dirais, du succès de l'entreprise ou non. Moi, je suis profondément choqué quand il y a un patron, entre guillemets, un dirigeant d'entreprise qui a planté l'entreprise et qui part par plusieurs millions d'euros. C'est assez inacceptable. C'est totalement inacceptable. Je pense que dans ce monde-là, il ne faut jamais oublier que l'entreprise, c'est aussi une fonction sociale et que de toute façon, nous sommes là aussi pour produire et c'est un tout. Donc cette mesure, je vous le dis comme je le pense, je ne suis pas, je dirais, hostile. Je suis même de ceux qui ont, au sein de la majorité UMP, milité pour qu'on puisse taxer ces gens-là.
Patrick Bloch, alors juste une réaction par rapport à ce que disait Jacques Mire, puisque donc il semble aller dans votre sens, mais ça ne concerne que 36 entreprises publiques ou à forte participation de l'État. Vous espérez que ça fasse contagion sur le privé?
J'espère que ça va faire contagion, effectivement.
C'est aux actionnaires.
Compte tenu.
Les petits actionnaires vont s'exprimer.
Les patrons du privé vont être touchés par la grâce, on a l'impression.
On n'est pas dans une économie administrée où l'État peut décider du salaire des dirigeants du privé. Donc je veux dire, par là, qu'il y ait un effet de contagion, c'est l'objectif. Et effectivement, à partir du moment, comme le disait très justement Marie-Georges Buffet, où les syndicats voient leur rôle effectivement reconnu et sont à nouveau, si j'ose dire, considérés comme des partenaires indispensables à la vie économique et sociale du gouvernement, dans la perspective de la conférence sociale du mois de juillet, effectivement, il faut créer ce mouvement qui touchera les entreprises.
Marie-Georges Buffet, je crois que en ce qui concerne les entreprises privées, la loi peut agir. Si par la loi, nous donnons plus de pouvoir aux salariés et à leurs représentants syndicaux dans la gestion des grandes entreprises, privées et publiques, je pense que ces salariés, ces leurs représentants vont pouvoir peser sur l'utilisation des richesses produites par leur travail. Et quand je pense à l'utilisation des richesses produites par le travail, je ne pense pas que salaire, même si j'y pense fortement, je pense aussi recherche, innovation. modernisation de l'outil de travail. Parce que la compétitivité, c'est pas faire baisser les salaires. La compétitivité, c'est de faire en sorte que l'entreprise réponde aux besoins.
Vous ne pouvez pas critiquer aujourd'hui les entreprises sur les problèmes de recherche, de compétitivité.
Je dis justement qu'il faut les aider à aller faire plus de recherche.
Nous avons des problèmes macroéconomiques sur lesquels on peut revenir, mais vous ne pouvez pas faire cette critique à des entreprises qui essayent d'être les plus performantes possibles. En réalité, si vous voulez un peu, je dirais, moraliser la situation, c'est qu'effectivement, par le biais de la fiscalité, il y a un moment, on lance un signal en disant, bah, puisque vous partez avec X millions d'euros de parachute, eh bien, on va taxer, point barre. C'est assez simple à faire. Et ça, moi, je n'y suis pas hostile, car quand c'est atteint ce degré, eh bien, il y a un moment, ça pose un problème de qualité.
Mais moi, ma proposition vise à donner plus de pouvoir aux salariés dans la gestion des entreprises.
Moi, je suis, effectivement, pour une politique contraignante qui soit imposée donc au patronat, à ces grands groupes industriels, à ces grands groupes financiers, et une politique contraignante qui aboutisse au fait que les salaires soient augmentés et que les travailleurs puissent vivre dignement de leur travail. Voilà. Écoutez, j'ai suivi attentivement la question de M. Gourjon, l'ancien PDG d'Air France, qui a touché une prime de 400 000 euros. Oui. Alors, donc, l'État, le représentant de l'État s'est dit opposé à cette prime. Enfin, Pas de chance. Elle a été versée.
Il s'est abstenu.
Alors, Il a voté contre. Mais donc, pas de chance, la prime a été versée et empochée. Alors, apparemment, on va le laisser décider. On va le laisser décider. Rien de contraignant. On lui impose pas de rembourser. Et moi, vous voyez, ça me rappelle ce qu'on impose aujourd'hui aux victimes de l'amiante, vous savez, à ces 60 familles de victimes de l'amiante à qui on demande de rembourser jusqu'à 20 000 euros qu'elles auraient trop perçus du fait de leurs indemnités mal calculées.
Attendez.
Alors, vous voyez, là, on fait rembourser.
Le gouvernement précédent s'est opposé au remboursement. Écoutez, et c'est une affaire législative.
Ah, mais
donc,
bien
ne
sûr.
Dites
ah,
pas
voilà.
Ce
alors,
que
on
vous
se cache derrière la justice. Mais ça, voilà. Pardon, la justice, elle sait imposer un certain nombre de choses, toujours pareil, aux travailleurs. Mais alors les patrons, on leur impose jamais rien.
Ce que dit Nathalie Arthaud sur le remboursement, effectivement, des personnes touchées par l'amiante ou des conjoints survivants, est le résultat d'une décision de justice.
Scandaleux.
Mais cette décision de justice est critiquable, c'est absolument évident. Mais ça n'a pas de rapport direct avec, la retraite de M. Gourjon et le fait qu'il doit rembourser ces 400 000 euros qui sont déjà
par rapport à
l'obliger.
Par rapport à la situation de ce patron, là, on a vraiment l'exemple d'une entreprise qui connaît aujourd'hui de très grandes difficultés, puisqu'on annonce 5 000 suppressions de postes. Donc, voilà le résultat de cet homme et qui veut en plus partir avec plein d'argent dans les poches. Et que là, on a maintenant des milliers de salariés qui aujourd'hui sont en train de jouer leur emploi.
Alors, on a évoqué tout à l'heure les bas salaires. Est-ce qu'il va y avoir un coup de pouce au SMIC? C'est-à-dire qu'au-delà de la revalorisation normale qui se fait le 1er janvier, il y aura un coup de pouce supplémentaire. C'est un bon signal. Et est-ce qu'il va être suffisant? Est-ce qu'on a les moyens de payer un coup de pouce suffisant?
D'abord, on ne sait pas le montant de ce coup de pouce. Moi, j'ai envie de dire, partons de la réalité. Aujourd'hui, vivre avec le SMIC, c'est vivre avec 1100 euros. Hein, qui rentre, vraiment. Bon. Lorsque vous voyez le coût d'un loyer, y compris chez un bailleur social, hein, c'est 600, 650. Le prix du gaz et de l'électricité qui ont explosé, parce qu'on nous avait expliqué, je me rappelle, M. Sarkozy, ministre du Budget, avait fait un discours à l'Assemblée pour nous expliquer que la privatisation d'EDF et de GDF, ça allait faire baisser les prix. On a vu le résultat, avec l'augmentation énorme des prix du gaz et de l'électricité. On ne peut pas vivre avec 1100 euros. Les gens nous expliquent qu'à la fin, ils se sacrifient pour que leurs enfants mangent correctement. Ils n'y arrivent pas, donc il faut augmenter le SMIC. Et il faut l'augmenter comme le demandent les syndicats, puisqu'on est dans la négociation.
Aller jusqu'à 1 700 euros par mois.
Mais oui, mais FO dit le salaire médian 1 370, la CGT dit 1 700, il faut écouter les organisations syndicales.
Patrick Bloch, apparemment, ce n'est pas tout à fait vers ça qu'on se dirige.
Le coup de pouce n'est pas mesuré à l'heure actuelle, puisque c'est l'un des enjeux de la conférence sociale du mois de juillet. Mm-hmm. Alors, il y a l'enjeu du pouvoir d'achat que rappelle à juste raison Marie-Georges Buffet. Il y a d'autres enjeux. Il y a aussi le fait de réduire le chômage. 1 million de chômeurs de plus ces 5 dernières années. Et si on veut créer des emplois, on sait qu'on les créera dans les petites et moyennes entreprises. Et si on passe le SMIC, effectivement, trop fortement du niveau qui est le sien à un niveau trop élevé, on sait très bien les conséquences.
Non,
donc,
là, je suis pas d'accord.
À chaque fois, il faut trouver le bon point d'équilibre, quitte d'ailleurs à aider les PME termes de cotisation ou d'exemption de cotisation, et surtout en réformant le système bancaire, puisque les dirigeants de PME
nous disent sensibilités différentes qui s'expriment.
Le système bancaire leur est inaccessible.
Non, mais sur les PME-PMI, la meilleure façon de les aider, et ça tous les patrons de PME-PMI vous le disent, la meilleure façon de les aider, c'est de les soulager de leurs charges financières. c'est de faire en sorte qu'un pôle financier public du crédit leur prête à taux zéro. C'est ce qui pèse le plus sur les petites entreprises et les moyennes entreprises.
Jacques Méard. Alors, premièrement, le SMIC a été réévalué au 1er janvier de cette année à 2,1% et qu'il a augmenté d'une manière forte ces 5 dernières années. Je le dis bien, mais si vous ne connaissez pas les chiffres, je vous les donnerai. Il est passé de 8,44 à 9 et quelques par taux horaire. Et donc, on a effectivement 1100 euros quasiment net. À cela, Madame Buffet, vous devez avoir l'honnêteté de dire que dans les revenus entrent d'autres aides directes, notamment l'aide à la prime de l'emploi. Et donc, ce n'est pas avec 1100. Il y a d'autres aides qui viennent dans le salaire, dont vous semblez les passer sous silence. Troisièmement, il faut savoir que lorsque vous augmentez d'un point aujourd'hui le SMIC, vous faites perdre à l'État par des problèmes de défiscalisation 1 milliard dans les recettes de l'État. Et enfin, et ça c'est beaucoup plus grave, c'est que lorsque vous augmentez d'un point le SMIC, vous excluez du marché du travail 1,5% de la population parce qu'il y a des gens qui ne peuvent plus, payer des SMICards à ce taux. Donc il faut être très prudent. Il faut être très prudent. Moi, je ne suis pas contre l'augmentation du SMIC, mais c'est un problème d'équilibre, et ça, je crois que M. Bloch a raison, mais ça ne se fait pas en disant 1700 euros. D'ailleurs, c'est du net ou du brut, les 1700 ?
On avait
c'est,
dit,
du net, c'est du net ou du brut ?
On avait dit du brut.
Du brut, parce qu'aujourd'hui, on est à 1400 en brut. Donc, il faut aussi rappeler ça.
Nathalie Arthaud ?
Moi, je ne sais pas combien il faut à M. Miard pour vivre. Ce que je sais, c'est qu'avec moins de 1700 euros net par mois, c'est très très difficile de vivre.
Madame.
Et alors, ça ne veut pas dire que les gens vivent bien, figurez-vous.
Mais je n'ai pas dit
figurez-vous
ça.
Que les gens vivent mal, très aussi... mal. Qu'aujourd'hui, attendez. Il y a de plus en plus de familles qui se posent le problème de payer leurs mutuelles, parce que les mutuelles aussi, elles ont beaucoup beaucoup augmenté, justement sous le coup de votre politique, hein, qui a fait payer de plus en plus de taxes aux mutuelles, qui évidemment les ont répercutées aux gens. Mais oui, et
oui, mais...
des gens qui se posent la question de se payer une mutuelle, de se nourrir convenablement. Donc on n'y arrive pas. Donc oui, il faut augmenter les salaire, c'est vital, c'est une mesure vitale. Écoutez, moi j'entends, je vous entends, oh, l'économie ne peut pas, on est au 21e siècle. Vous êtes en train de nous dire que l'économie ne peut pas faire vivre dignement les travailleurs. Eh bien moi j'appelle ça une économie qui ne marche pas.
Les attentes, vous voyez bien que à la gauche, les attentes sont énormes. S'il vous plaît,
ce serait mentir. Mais
les attentes par rapport au gouvernement sont énormes.
Bien sûr.
À gauche.
Ben évidemment. Et je dirais quelque part que c'est la raison pour laquelle François Hollande a été élu président de la République. C'est parce qu'effectivement, ça a levé un espoir très important dans le pays, et notamment un espoir très fort dans le domaine de la justice sociale. D'ailleurs, quand François Hollande, le soir du 6 mai, est intervenu pour la première fois, une fois qu'il a été élu président de la République, il a dit « j'ai deux objectifs majeurs ». La justice, et notamment la justice sociale et la jeunesse.
Nous allons nous interrompre quelques minutes pour aller rejoindre Jean-Noël Mirande qui doit être au-dessus de nous pour nous présenter le journal régional et qui va nous dire ce qu'il y a dans sa besace.
Bonjour Jean-Noël. Au-dessus de vous.
Merci Jean-Noël, on vous retrouve donc à 19h ce soir avec votre invité. Retour à La Voix est libre. Alors, dans son interview à France 2 cette semaine, François Hollande a dit qu'il ne s'impliquerait pas dans la campagne électorale. D'ailleurs, il a dit qu'il n'était pas le chef de la majorité. Et puis en même temps, il a demandé aux Français de lui donner une majorité pour le changement. Alors, Jacques Mire, est-ce que c'est une façon de désigner, sans dire, le bon choix ?
Écoutez, il est dans son rôle, il ne faut pas se cacher derrière
son couloir. Est-ce qu'il faut dire « je
n'en
mêle pas »
Ça, à mon avis, je crois qu'il est allé un peu trop vite. Il est bien clair que dans un quinquennat, le chef naturel, celui qui a porté la victoire, c'est indéniable, c'est François Hollande. Donc, bien sûr, il a dit « c'est le Premier ministre ». Qui est le chef de la majorité, mais à mon avis, ça va pas. Ça, c'est une promesse qui sera non tenue.
Vous voulez dire que c'est lui qui va.
Mais c'est évident, c'est évident. Il a l'onction du suffrage universel. Le Premier ministre a été choisi. Donc, le chef naturel aujourd'hui de la gauche, je ne parle pas des gauches, hein, parce qu'il va y avoir cohabitation à gauche, on le sait. Hein, mais véritablement, c'est le président de la République. Il n'y a rien de scandaleux dans ça.
Patrick Bloch, il n'y a rien de scandaleux à désirer le bon choix. Aidez-moi, faites Élysée une majorité.
Vous avez compris qu'avec François Hollande, c'est une présidence normale.
Ah, c'est plus normal, c'est simple. C'est simple, parce que la notion de normal, apparemment, les humoristes ont commencé à s'en saisir, etc. Et la dernière fois, il a dit simple.
Bref, on revient à ce qui n'aurait jamais dû changer, c'est-à-dire le fait que le président de la République, une fois qu'il est élu par les Français, et le président de tous les Français, ne saurait être... le chef d'un parti ou le président des Français qui l'ont seulement
élu. Alors ça, je prends un pari de 12 bouteilles de champagne.
Mais non, François Hollande a participé à sa dernière réunion du Conseil national du Parti socialiste la veille de son investiture. On ne reverra jamais dans aucune réunion socialiste en tant que telle. Il ne fait pas campagne sur le terrain. C'est le rôle de Jean-Marc Ayrault, du Premier ministre, qui est le chef de la majorité. Et en l'occurrence, voilà, on revient. Je veux dire, le général de Gaulle n'était pas le président, le chef de l'UDR à l'époque.
Sept ans. C'était le septembre.
Marie-Georges Buffet, donc une réaction par rapport à ça. Et d'autre part, est-ce que ça explique le nombre de choix symboliques ou de mesures symboliques ont été prises vite pour marquer la rupture?
D'abord, c'est vrai que vous aviez eu l'habitude d'être souvent invité à l'Élysée. Parfois même, on vous attendait dans
Jalouse.
Les débats parce que vous étiez à l'Élysée pour recevoir les ordres de Nicolas Sarkozy. C'est vrai.
On
suspendait la séance parce qu'il n'était pas rentré de l'Élysée. Moi, je crois que surtout ce qui est important, c'est que la République soit respectée. C'est-à-dire que le président de la République ne se mêle pas de tout toujours, que le président de la République ne place pas ses hommes ou ses femmes un peu partout. Que le président... Voilà. La question, c'est aussi de revaloriser le rôle de l'Assemblée nationale. Je pense que nous avons beaucoup, je sens que nous avons beaucoup souffert pendant 5 ans sur la place de l'Assemblée nationale par rapport au président de la République et par rapport au gouvernement. Donc revaloriser les élus aussi du suffrage universel que sont les députés. Et puis, je pense également qu'il va falloir travailler. Moi, c'est une des propositions du Front de Gauche, à une nouvelle République. La 5e République est une très vieille dame qui ne correspond plus tellement au niveau de connaissance, au niveau d'information des citoyennes et des citoyens. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut décentraliser le gouvernement de la France, que les hommes et les femmes sont en capacité de se mêler de leur destinée.
Nathalie Arthaud, vous êtes un peu en retard de temps de parole, donc je vous donne la parole. Une réaction par rapport à la campagne?
Bah écoutez, moi, je crois qu'on enfonce là des portes ouvertes. Hein. C'est évident que Hollande fait campagne pour les législatives, pour son camp, voilà. Et quant au changement... C'est vrai que là, il a compris, je crois, que sa popularité était à la mesure du rejet de Sarkozy et qu'il s'agissait pour lui de prendre l'exact contre-pied de tout ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy dans les premières semaines. Donc voilà, on l'a vu effectivement voyager en train, pas en avion, on l'a vu faire signer une charte de déontologie, enfin bon, toute une série de gestes symboliques quand même. Mmh. Hein, j'ai le sentiment que finalement il applique un principe, vous savez, bien connu, hein, du pouvoir, tout changer
et rien changer
à la tête de l'État, hein, au sommet, pour que rien ne change dans le fond de la société. Voilà, moi j'ai ce sentiment-là. Constate qu'il y a une continuité, enfin on y reviendra, mais il y a en réalité une continuité et que constate encore une fois que le gouvernement ne s'engage pas réellement sur ce qui est d'essentiel pour la vie aujourd'hui des travailleurs, c'est-à-dire sur la garantie des emplois dans ces entreprises qui sont menacées de fermeture et sur les salaires et sur
Patrick
les retraites.
Il y a quand même un certain nombre de choses qui ont changé, on va l'évoquer parce que ça a été aussi cette semaine, c'est le changement à la tête de la police nationale, à la tête de la préfecture de police de Paris, à la tête des renseignements intérieurs. Et certains ont dit, attention, ça y est, c'est la chasse aux sorcières qui commence. Est-ce que c'est normal, immédiatement, de changer rapidement des personnalités comme ça? Ou est-ce que c'est un signe qu'à un moment donné, il faut prendre le pouvoir, quoi?
Oui, j'ai vu que la droite, notamment M. Copé, donc, s'était alarmé du remplacement de 3 responsables policiers dont les rôles étaient très politisés et dont les noms, malheureusement, ont été cités dans des affaires qui font l'objet de procédures judiciaires actuellement, notamment parce que la loi sur la protection du secret des sources des journalistes a été mise en cause gravement, notamment dans l'affaire Woerth-Bettencourt. Donc, en l'occurrence, il est sain. Pour la République, pour cette nouvelle République dont François Hollande pose les fondements actuellement, qu'effectivement ces 3 responsables policiers soient changés, je pense qu'ils s'y attendaient. Et parler de chasse aux sorcières, ça fait sourire.
Marie-Georges Buffet, vous êtes un peu en retard de prendre parole.
Mais d'abord, je pense qu'il va falloir revenir sur toute une série de mesures qui ont été prises par l'ancien gouvernement. Je pense par exemple à la nomination des directeurs, des présidents de chaînes de télévision, des choses comme ça, où il va falloir quand même, là aussi, redonner la parole un peu aux salariés de ces entreprises, qu'elles soient publiques notamment. Je pense qu'il va falloir faire en sorte que dans les entreprises publiques, les organisations syndicales puissent là aussi donner à voir de leurs propositions. Il y a tout un souffle démocratique nouveau à donner dans ce pays, qui est très important. Il y a des mesures symboliques, elles valent ce qu'elles valent, moi ça ne m'intéresse pas trop tout cela, mais il va falloir aller maintenant trancher dans le vif, c'est-à-dire vraiment changer notre façon de fonctionner, changer notre façon d'élaborer la loi. changer notre façon d'élaborer la loi, c'est-à-dire faire en sorte vraiment que les choses soient faites avec les citoyens et les citoyennes. Il va falloir aussi consulter beaucoup plus nos compatriotes. Je pense par exemple aux questions européennes. Est-ce qu'on va aller vers un référendum sur ce nouveau traité qu'on a voulu nous imposer avec ce mécanisme de stabilité européenne? Donc est-ce que tout cela va bouger? Pour moi, c'est ça qui va être significatif.
Jacques Miard.
Alors il y a plusieurs choses. Premièrement, je voudrais dire à Patrick Bloch que changer un directeur d'administration centrale, ça n'a rien de choquant, ça fait partie des institutions et de la Constitution, et c'est de la responsabilité du gouvernement et du président de la République. Simplement, comme il l'a fait, lier ce changement à des affaires en cours, ça veut dire qu'il est présumé coupable, et ça je ne l'accepte pas. Donc ça c'est très maladroit dans ce que vous venez de dire. Deuxièmement, le président de la République a dit « je nommerai pas, je ferai nommer ». Mais je suis désolé. C'est lui qui est chargé de la conduite du char de l'État. C'est lui qui a, l'onction du suffrage universel. Et je m'inscris en faux de faire nommer un directeur d'administration centrale ou un président de chaîne par du corporatisme d'une agence. Ça, ce n'est pas acceptable. Et c'est une dérive très grave de la démocratie. Car le président de la République, à travers le Premier ministre et les ministres, est responsable devant le Parlement. Si vous confiez cette fonction à une agence, vous déresponsabilisez totalement, l'action politique et l'action publique. Donc c'est extrêmement grave. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous pour dire qu'il faut nommer peut-être avec l'aval des salariés, etc. Il y a un moment, stop. Il y a un moment, c'est le chef de l'État qui prend ses responsabilités et qui nomme. Ça me paraît, beaucoup plus républicain et démocratique que tout le salmigondi que vous décrivez.
Puis-je répondre à Jacques Maire, parce que je ne vois pas qu'il y ait de confusion. Je respecte totalement, et je voudrais qu'on restaure, d'ailleurs, en rendant la justice indépendante, ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Mais le problème s'est posé au moment où les noms de M. Pechenard et Squarcini ont été cités à plusieurs reprises, qu'ils se sont retrouvés au cœur de procédures judiciaires qui auraient dû amener à l'époque à ce qu'ils soient...
Au nom de quoi? Au nom de la présomption d'innocence?
Parce que l'État ne peut fonctionner qu'avec des fonctionnaires qui soient exempts de tout soupçon. Et donc, en l'occurrence, regardez ce que nous faisons...
Vous êtes en train de défendre le soupçon?
Regardez ce que nous faisons au Parti Socialiste.
Mais on n'est pas sous la Convention, laissez ça, Madame Artaud.
Nous avons retiré encore hier notre investiture, l'investiture du Parti Socialiste, à une candidate parce qu'elle se retrouve mise en examen et que nous voulons... Que le Parti Socialiste
plaît,
soit irréprochable
Bloch, ce n'est pas
et que la République soit exemplaire.
J'acte aujourd'hui que vous êtes pour la République des
soupçons.
C'est la même logique. Merci.
Nathalie Arthaud, sur ces désignations et sur le fait de l'État impartial, dans ce qu'on a, vous avez
non,
une opinion?
Non, enfin là, je crois que là, c'est la valse classique de postes effectivement très exposés. Et moi, je tiens à souligner plutôt le contraire. Le contraire, c'est qu'il y a une continuité de l'appareil d'État. Le contraire, c'est ça. Le contraire, c'est qu'il y a toute une série de hauts fonctionnaires qui sont inamovibles et qui travaillent pour la gauche, pour la droite, pour la gauche, pour la droite, et voilà.
Et c'est pas une preuve de leur impartialité? Est-ce que c'est pas une preuve de leur impartialité?
Écoutez, non, mais attendez, sauf que ces gens-là, ils ont véritablement le pouvoir, c'est eux qui contrôlent les tenants et les aboutissants de tous les dossiers. C'est eux qui conçoivent les lois, c'est eux qui les écrivent, c'est eux qui... Je termine, attendez, je termine. Et justement, c'est aux fonctionnaires qui en réalité ont un poids énorme sur les ministres, sur les députés aussi, et bien ceux-là ne sont jamais élus. Ne rendent jamais de compte. Ben oui, moi je ne suis pas pour cet appareil d'État qu'on retrouve et qui finalement... Parce que ces gens-là, ils sont sélectionnés, ils sont choisis, et ils sont pour l'ordre social.
C'est le statut de la fonction publique qui est un aspect extrêmement important de la démocratie de la République. C'est la neutralité.
Mais aux
fonctionnaires, petits fonctionnaires, ça ne veut rien dire.
Excusez-moi, mais il y en a qui ont plus de pouvoir que d'autres, vous le savez très bien.
Vous voulez sortir un certain nombre de fonctionnaires du statut de la fonction publique?
Mais pas du tout.
Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la neutralité de la fonction publique. Quel que soit le pouvoir, la fonction publique demeure. Et justement, moi, je suis très inquiète de la remise en cause d'un certain nombre de statuts de la fonction publique sous la droite. Par contre, vous dites, mais ils influencent les ministres, mais c'est parce que des ministres veulent se laisser influencer.
Absolument.
Après, il faut la volonté politique.
Absolument. Moi, quand j'ai été ministre,
il faut être écouté. La France a la chance d'avoir une fonction publique qui est compétente, qui est dédiée à l'intérêt général. Et ce que j'entends ici sur mon extrême gauche est absolument inacceptable.
Patrick Bloch.
Mais il faut défendre la fonction publique d'abord, parce que durant ces 5 dernières années, avec ce qu'on appelait la révision générale des politiques publiques, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, elle a autant souffert que les salariés du privé. Il faut effectivement, en termes de statut, et également en termes de pouvoir d'achat, parce que je rappelle que beaucoup de fonctionnaires...
Le pouvoir d'achat des fonctionnaires a fortement augmenté.
Catégorie C
n'est pas...
Mais au-delà de la RGPP, il faut que le statut des fonctionnaires et leur impartialité soient réaffirmés.
A rappelé le principe essentiel de la neutralité de la fonction publique. On l'a suffisamment rappelé. Et en l'occurrence, il faut justement que le pouvoir politique soit celui du pouvoir exécutif, soit le pouvoir que nous aurons au Parlement, puisqu'il faut une majorité de gauche à François Hollande pour gouverner, permettra effectivement de trouver le bon équilibre entre les différents pouvoirs et de faire passer...
Heureusement qu'il y a un consensus républicain sur l'essentiel.
Absolument. Absolument.
Donc,
merci
sociale,
à vous d'avoir été sur notre plateau et d'avoir été en direct en ce samedi matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mardi soir, parce que mardi soir, dans la deuxième partie de soirée, nous aurons une autre émission spéciale sur les législatives. Donc, à ne pas manquer, en attendant la grande soirée de dimanche soir du 10 juin, la grande soirée électorale. Je vous souhaite un bon week-end. Merci à vous tous. À bientôt. Merci.